ses amis le journal. CRTV Cameroun Radio Télévision avec ses 10 stations régionales et FM commerciales toutes câblées dès cet instant sur le poste national. Mais là, monsieur, il est 20h à Yaoundé, c'est l'heure du journal. Christelle Boutjeka présente le 20h. Christelle, bonsoir.
Bonsoir, Manfred. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Projet de développement en Afrique, la touche du Japon. Une délégation de parlementaires japonais décline leur offre au cours d'une visite de travail en terre camerounaise. Aïssawa Ishiro conduit la délégation qui était aujourd'hui au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la primature. Cameroun, Guinée équatoriale, nouvel élan dans la coopération bilatérale. La 9e session de la grande commission mixte entre les deux États s'est refermée ce 9 août à La Paz. En sport, Jeux paralympiques 2024, le ministre Narcisse Mouelekombi a remis le drapeau ce vendredi à la team engagée dans la compétition parisienne prévue du 28 août au 8 septembre. Le porte-étendard est la para-athlète Dassy Marie-Antoinette. Toujours en page des sports, les hommages à Issa Hayatou, décédé hier en France. La famille du football déplore la disparition d'un homme intègre. Bienvenue aux 20h du vendredi 9 août 2024. L'immeuble étoile à l'heure de la diplomatie parlementaire. Le premier ministre chef du gouvernement a accordé une audience ce matin à une délégation de parlementaires japonais. Au menu des échanges, le renforcement des relations bilatérales entre le Cameroun et le Japon. C'est un prélude à la réunion ministérielle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Laurentine Bekono nous en dit plus.
Le ciel est bleu entre Yaoundé et Tokyo. Les échanges aux premières heures ouvrables de ce vendredi 9 août entre le premier ministre chef du gouvernement et ses hôtes japonais emportent témoignage. Il était 8h45 quand la délégation des parlementaires japonais de l'association du groupe d'amitié parlementaire Japon-Union africaine a effectué son entrée à l'immeuble étoile sous la conduite d'Aiwaso Ishiro, président du groupe parlementaire. Imposante par la qualité de ses membres, la délégation est composée de sénateurs et députés, tous des anciens ministres. En une demi-heure, les dossiers bilatéraux ont été passés en revue.
Le Cameroun est un partenaire important dans la sous-région. Nous avons de très bonnes relations avec le pays. Avec le premier ministre chef du gouvernement, nous avons pris du temps pour passer en revue cette fructueuse coopération. Nous avons également évoqué les questions économiques et de stabilité sous-régionale, examiné ce que le Japon peut faire de plus pour faire prospérer davantage cette coopération. Nous avons surtout parlé de la TICAD, qui est une réunion ministérielle de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Cameroun y prend toujours part et notre souhait est de voir la participation du chef de l'État au TICAD 9 qui se tiendra l'année prochaine.
À titre de rappel, le grand ami du Cameroun a été le tout premier partenaire bilatéral à croire à l'initiative présidentielle visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec une contribution de près de 3 milliards de francs CFA. Dans le domaine de l'éducation, le Japon appuie notre pays dans la construction des écoles primaires en zone urbaine et périurbaine. Autre illustration, le Cameroun a toujours pris part à la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. Enfin, les hôtes du premier ministre et chef du gouvernement ont rassuré sur leur disponibilité à soutenir les grands projets économiques du Cameroun. Immeuble étoile, Laurentine Bekono, CRTV.
Cameroun, Japon, renforcement de la diplomatie parlementaire. C'est la feuille de route de la délégation des parlementaires japonais qui effectue une visite de travail à Yaoundé. La délégation conduite par Aisawa Ishiro a été reçue par le premier vice-président du Sénat et par son homologue de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur les projets de développement au Cameroun. Julien Paul Ngono fait le point.
La forte délégation des parlementaires japonais, membres de l'Association d'amitié Japon-Union africaine, était composée de 6 membres, à savoir l'honorable Aisawa Ishiro, chef de délégation, 2 autres députés et 2 sénateurs. Elle était accompagnée pour la circonstance par 4 responsables de l'ambassade du Japon. Une présence qui justifie à n'en point douter toute l'importance de la visite des parlementaires japonais au Cameroun. Aisawa Ishiro, chef de délégation.
Le Cameroun est un pays le plus important pour la stabilité et la paix dans cette sous-région d'Afrique centrale et c'est un partenaire au niveau de la liberté, de la démocratie, de l'état de droit.
C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a reçu en fin de matinée la délégation des parlementaires japonais. L'honorable Hilarion Eton avait à ses côtés quelques députés, membres du groupe d'amitié interparlementaire Cameroun-Japon. Honorable Mathurin Bindoua.
On se retrouve ici aujourd'hui pour des projets de développement qui pourraient bénéficier à notre pays.
Après l'Assemblée nationale, la délégation des parlementaires japonais a été reçue par le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye. Les deux parties ont échangé sur les relations bilatérales qui existent entre les deux pays.
Des projets tels que le projet de Anzen, c'est-à-dire la sécurité aux Japonais, et le projet de Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration de manière continue.
Dans le domaine de la santé et de l'agriculture.
Cette visite se tient en prélude à la réunion ministérielle de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD en abrégé, qui aura lieu du 24 au 25 août prochain au Japon.
Cameroun, Guinée équatoriale, nouvel élan dans la coopération bilatérale. C'est la principale résolution des travaux de la 9e session de la Grande Commission mixte entre les deux pays. 3 jours de travail sous la coordination du ministre Mbela Mbela des Relations extérieures et Oyono Essono Angé de Guinée équatoriale. Les experts des deux pays ont harmonisé les textes en vue d'une meilleure coopération en ligne de la passe en Guinée équatoriale. Oswald Medon.
Main dans la main, le Cameroun et la Guinée équatoriale s'engagent à marcher ensemble vers un nouvel horizon. Le rythme de la nouvelle aventure a pris corps ici à La Paz, principale ville de la province de Diblo. C'est dans la quiétude de cette nouvelle cité équato-guinéenne que les experts des deux États se sont réunis pour la 9e session du comité mixte de coopération entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. 72 heures, quasi non-stop, pour déblayer le chemin et poser les jalons de la nouvelle coopération bilatérale. Pour la clôture de la session en plénière, la lecture des 43 pages du procès-verbal en français, puis en espagnol, met définitivement les deux parties d'accord. Ils passent en revue les sujets évoqués, comme la nécessité pour les deux parties de mettre sur pied le mécanisme de mise en œuvre des accords signés sur les plans juridiques et politiques. Mais pas que. Dans les lignes également, les difficultés d'obtention des documents consulaires par les Camerounais, les délits perpétrés de part et d'autre de la frontière, les problèmes de sécurité transfrontalière, l'éducation, la culture, les innovations et même la collaboration dans le secteur des PME, rien n'a été négligé. Les ministres Mbela Mbela du Cameroun et son homologue de Guinée équatoriale, Siméon Oyono Essono Angé, qui conduisaient les travaux ont salué la détermination des chefs d'État camerounais et équato-guinéens, engagés qu'ils sont à préserver une amitié et une bonne collaboration bilatérale. D'autres personnalités en provenance des deux pays ont aussi pris part aux échanges. Parmi elles, le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paula Tangandi, qui présidait la sous-commission côté Cameroun, chargée des questions frontalières. Et les deux parties se sont séparées, avec la satisfaction du devoir accompli. Oswald Medung, Christian Bessigué, envoyé spécial de la CRTV à La Paz.
Le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey, préside lundi prochain à Yaoundé la cérémonie de lancement officiel des conférences élargies de programmation budgétaire et de performance associée. Ces travaux, qui sont conjointement organisés du 12 au 21 août 2024 par le ministère de l'Économie, visent à affiner la programmation triennale des dépenses des administrations publiques pour la période 2025-2027. Il s'agira d'exercer d'examiner et de valider les cadres de dépenses à moyen terme, en abrégé CDMT, des organes constitutionnels et départements ministériels, en cohérence avec les recommandations issues du débat d'orientation budgétaire et les plafonds de crédit notifiés par le Premier ministre chef du gouvernement. 20h10, vous êtes sur le poste national de la CRTV. Une plus grande implication dans la vie politique et économique du pays, c'est le vœu des communautés pygmées et mbororo en cette 30e journée internationale des peuples autochtones vulnérables. Les activités commémoratives étaient présidées ce vendredi à Yaoundé par la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guenet. D'autres précisions dans ce reportage de Charles Abosolo-Oba.
Un air d'Mpeya, musique traditionnelle Bagili, sur les hauteurs du mont Fébé. Le cœur est à la fête en séjour spécial, mais les communautés pygmées présentes ici n'oublient pas les aspirations de leur peuple à porter à l'attention des pouvoirs publics. Anna Maria Manzo, porte-parole des communautés 4B.
L'enclavement des communautés qui ne permettent pas l'accès, que ce soit aux structures qui interviennent à la chaîne, soit d'établissement d'actes de naissance, soit à l'établissement des cadres nationaux d'identité, soit même à l'accès à l'éducation. Nous comptons beaucoup sur le ministère des Affaires sociales pour l'établissement de beaucoup de plaidoyers.
Les communautés pygmées et bororo se réjouissent des avancées enregistrées au Cameroun en matière d'inclusion sociale. 17 ans après l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Mais beaucoup reste à faire selon Adamu Amadou, porte-parole Bororo.
L'année prochaine, les élections se pointent à l'horizon. Qu'avons-nous préparé pour les populations autochtones? Pour qu'ils puissent participer activement, pour qu'ils puissent non seulement s'enregistrer dans les listes électorales, mais aussi pour qu'eux-mêmes soient candidats.
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a lancé un nouvel appel en cette 30e journée internationale des peuples autochtones vulnérables, celui d'assurer la survie et le respect des droits de ces gardiens des traditions qui représentent 6% de la population mondiale.
Campus propre et sain pour le 9 septembre 2024. La campagne de 15 jours démarre lundi 12 août. Elle se traduit par une caravane mobile d'hygiène et de salubrité dans les écoles maternelles et primaires publiques d'Union et Mfumu dans le centre. Une campagne couplée à l'opération Mairie Mobile phase 3 dont l'objectif est l'atteinte du ratio 1 élève, 1 acte de naissance à l'orée du 9 septembre 2024, jour de rentrée scolaire. Aux manettes, le maire de la commune d'Ayos, Paul Ndongo Bikor. Des récompenses pour les meilleurs élèves du département de la Mefou et Akono. Elles seront remises demain samedi à la place des fêtes de Mbankomo à la faveur de la 6e édition de la cérémonie d'excellence scolaire de ce département. Cérémonie couplée à la remise des appuis divers aux jeunes entrepreneurs de ce département. La cérémonie est une initiative de la COGEMAC, la coordination des jeunes élites de la Mefou et Akono, sous le parrainage de Gaston Elundu Esomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie. Booster et dynamiser l'entrepreneuriat jeune au Cameroun, Yaoundé va abriter en novembre prochain la 2e édition du Camp national de l'entrepreneuriat jeune. Le rendez-vous, porté par l'Association nationale des jeunes entrepreneurs du Cameroun, ce rendez-vous a été présenté aux médias ce vendredi. Les organisateurs, avec le concours du système des Nations unies et le ministère en charge des PME, de même que la Chambre turco-camerounaise, les organisateurs ont placé l'événement sous le thème digitalisation, enjeu majeur pour la communication et le marketing des PME. D'autres précisions avec Agnès Sylvienne Anzama.
La communication médiatique de l'Association nationale des jeunes entrepreneurs du Cameroun avait un double enjeu, le lancement du programme Invest in My Project et le dévoilement des objectifs et des articulations du prochain Bootcamp national de l'entrepreneuriat jeune prévu du 14 au 16 novembre 2024 à Yaoundé. Occasion pour le président de l'ANJEC de décliner la vision autour.
Le programme voudrait que nous choisissions les meilleurs projets innovants dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'agropastoral, du numérique, de l'énergie renouvelable, afin qu'ils puissent être coachés et recevoir un accompagnement à la fois logistique mais financier.
Au-delà de la question de financement, le Bootcamp se veut une plateforme de changement de mentalité sur la perception de l'entrepreneuriat. Il est prévu un challenge de meilleurs projets dans le cadre du The Voice Entrepreneuriat Jeune. Fabrice Founiba, président de Turin. Kaba, partenaire du rendez-vous.
Ces jeunes vont recevoir des formations assez pointues pour pouvoir véritablement maturer leur projet, faire intervenir le savoir-faire turc, pouvoir générer des produits de qualité.
Jean-Marc Essono Ateba, sous-directeur des actions promotionnelles du ministère en charge des PME.
Cet accompagnement technique devrait être renouvelé pour que le message relatif à la nécessité d'entreprendre chez les jeunes soit porté.
Plus de 5000 visiteurs, 500 participants, 100 expositions sont attendues au cours de ce bootcamp. Les inscriptions sont ouvertes auprès de l'Association nationale des jeunes entrepreneurs du Cameroun.
Nécrologie, la croix de la valeur militaire du Cameroun à l'ordre de la nation, décernée à titre posthume par le président de la République au vice-amiral Guillaume Ngwa Ngali. L'officier général décédé le 7 juin dernier a été décoré ce vendredi à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé au nom du chef de l'État par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Beti Assomo. Plus de précisions dans ce reportage de Rabiato Foudaou.
Vice-amiral Guillaume Ouangale, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous attribuons la croix de la valeur militaire du Cameroun à l'ordre de la nation à titre posthume.
C'est la séquence phare d'une cérémonie de levée du corps entourée de tous les honneurs militaires. À la cour d'honneur de la brigade du quartier général, la prestigieuse distinction honorifique à titre posthume est déposée sur la bière du vice-amiral Guillaume Ngwangali par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense au nom du président de la République. Temps fort d'un processus de sortie de scène tout en prestige pour le défunt officier général, inspecteur général des armées, disparu le 7 juin dernier à Paris en France. 85 ans d'existence sur terre, 63 années à servir la nation sous le drapeau, une vaillance et des valeurs reconnues par le chef de l'État, chef des forces armées à travers la lettre de condoléances portée et lue par le préfet du Fundi, Emmanuel Digdent. Vaillance, valeur d'un militaire qui toute sa carrière aura été homme de devoir et modèle au sein des forces de défense et de sécurité. L'éloge funèbre lu par le général de division Sali Mohamadou, commandant la 4e région militaire interarmée, rappelle le caractère dévoué, humain, professionnel et chaleureux du marin qui, de la vie générale, laisse derrière lui une marque indélébile au sein de l'armée camerounaise. Le vice-amiral Guillaume Ngwangali est décédé, mais dans le cœur de ses familles biologiques et professionnelles, il vit à jamais à travers son œuvre.
Regrets éternels. Le ministre des Forêts et de la Faune informe les opérateurs économiques de la filière bois que de légères perturbations sur SIGIF2, système information de gestion forestière de deuxième génération, de légères perturbations freinent la fonctionnalité optimale depuis quelques jours. Le développeur de cette application et les équipes du ministère sont à pied d'œuvre pour résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Le ministre Jules Dorendongo invite les opérateurs économiques à la patience et les encourage à continuer à faire confiance à cet outil, désormais indispensable à la gouvernance sectorielle et à la dématérialisation des procédures. Vacances utiles, l'émission radio s'est refermée ce vendredi. Le 24e numéro annuel a réuni à la maison de la radio, CRTV, à Yaoundé Nlankak, des écoliers et des étudiants fans du micro. Les encadreurs les ont rodés aux bases du journalisme et de l'animation. Reportage Inès Kanebena, stagiaire de l'ESTIC.
Chant et danse, exécutés ce jour à l'occasion de la cérémonie de clôture des activités de vacances utiles édition 2024. Pendant 16 semaines, plus de 60 apprenants se sont livrés à une formation radiophonique sous le regard minutieux de leurs encadreurs. Landry Simo, coordonnateur.
Il était question pour ces jeunes durant 5 semaines d'apprendre tout ce qui entre dans un peu le carnaval d'un reportage journalistique, d'un travail de rédaction et aussi comprendre aussi l'esprit du vivre ensemble parce qu'on veut ramener non seulement les jeunes à une unité, à une d'une solidarité, mais au vivre ensemble également.
Un moment de convivialité et de vivre ensemble qui a permis à ces jeunes d'explorer le journalisme, mais aussi de vaincre leurs peurs. Amougou Vengluc, apprenant déficient.
Merci à l'émission Vacances Utiles parce que ça m'a permis de découvrir beaucoup de talents cachés en moi.
Pour certains, ce stage a été un moment de développer la passion du journalisme.
J'ai toujours rêvé d'être journaliste, donc ça a juste renforcé encore ce que je pensais déjà.
J'ai envie d'être journaliste.
Fort de son succès, Vacances Utiles restera marqué dans les esprits de ces jeunes et rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles expériences.
La page des sports s'ouvre sur les Jeux paralympiques 2024. Rendez-vous à Paris du 28 août au 8 septembre prochain. La Team Cameroun a reçu l'onction du gouvernement cette demi-journée lors de la remise de l'étendard aux ambassadeurs du 237 en France. Le porte-étendard est la para-athlète Dassy Marie-Antoinette. Le ministre des Sports Narcisse Mouelekombi lui a remis le drapeau, invitant tous les athlètes à faire briller nos couleurs en terre française. Didier Marie et Tundi nous en dit plus.
La délégation paralympique camerounaise est davantage galvanisée au moment de quitter le pays pour aller défendre le drapeau national à Paris. La cérémonie de remise de l'étendard de ce vendredi 9 août 2024 a mobilisé la grande famille paralympique ainsi que les responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique dans la salle de conférence de ce département ministériel. Un message profond au para-athlète camerounais, professeur Narcisse Mouelekombi, ministre des Sports.
Une participation honorable. Cela ne sera certes pas une tâche aisée au vu de la grande adversité, mais sachez vous battre avec abnégation, témérité, courage, dans la dignité, la sportivité et le fair play.
L'engagement a été pris au nom de l'ensemble des para-athlètes par Marie-Antoinette Ndassi, para-taekwondoïste.
Nous promettons de participer aux Jeux paralympiques en concurrents loyaux, respectueux pour un de notre pays et pour la gloire du sport.
Une lourde mission pour le mouvement paralympique national. Sa Majesté Jean-Jacques Ndoundoumou, président du CNPC.
Très grand honneur et en même temps une très grande responsabilité que la Team Cameroun paralympique doit aller défendre valablement les couleurs de notre pays.
La compétition qui démarre le 28 août prochain va s'achever le 8 septembre à Paris, alors que la délégation camerounaise quitte le pays le 12 août prochain.
Issa Hayatou n'est plus. L'ancien président de la Confédération africaine de football a rendu l'âme hier soir à Paris. Les regrets abondent sur la scène nationale. Qu'apprécie à Garoua, sa ville de naissance, la famille biologique, le mouvement sportif et les résidents du Nord portent le deuil, saluant la mémoire d'un homme intègre, affable et dévoué. Iya Hacham Alim décrit la vague d'émotions qui traverse Garoua dans le nord du Cameroun.
Depuis l'annonce de la disparition de Issa Hayatou à Paris, loin des berges de la Bénouée qui ont marqué d'une encre indélébile sa tendre enfance, une onde de choc traverse toute la ville où l'amida de Garoua, c'est la tristesse et la consternation. Sa Majesté Ibrahim El Rachidini, l'amido.
La mort est une certitude, c'est un triste jour. Nous sommes tous en deuil, nous formulons des prières pour le repos de son âme, pour qu'Allah puisse l'accueillir.
Le préfet du département de la Bénoué, Oumar Waman Wabi.
Il fut prince du l'amida de Garoua. Les populations sont réveillées dans la prière, dans le recueillement, après avoir donc appris cette triste nouvelle. Il a été affable, cet homme d'une grande humilité. Sa disparition pour un bon nombre de personnes dans la ville sera un coup dur.
Dans cette atmosphère lourde d'émotions, le mouvement sportif pleure un professionnel hors pair qui a fait la fierté de tout un continent. Issa Amadjoda, délégué régional des sports et de l'éducation physique.
Il était un homme charismatique, un homme visionnaire. La ville de Garoua a abrité la CAN et de manière toute particulière, Issa Hayatou aura contribué à la très bonne organisation. Il a donné une autre dimension du football et du management de la Confédération africaine de football.
En attendant ses obsèques, le 8 août 2024 restera à jamais gravé dans la mémoire des populations du Nord, drapées dans une robe de deuil. Elles continuent de pleurer l'un de leurs illustres fils. Garoua, Iya Chamalim, Siartivi.
Le milieu du football déplore la disparition d'un homme solide, un infatigable bâtisseur, un artisan de l'image de marque du football africain. Évocation avec Gaël Moudiondedi en ligne de Douala.
C'est une figure emblématique, un grand frère pour beaucoup, comme Joseph-Antoine Bell, dont il aura été le maître d'internat et qui salue sa mémoire. Son amour pour l'Afrique s'était imposé sur la place footballistique mondiale. Fervent défenseur de la cause du continent, son idée était de gagner toujours plus de respect et de visibilité pour l'Afrique. Il a réussi à obtenir que le nombre de places de l'Afrique passe de 2 à 3 en 1994 et de 3 à 5 en 1998. La bataille pour les footballeurs africains en Europe a été âpre afin qu'ils soient libérés par leur club pour la CAN et même pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Issa Hayatou a obtenu de hautes luttes que la Coupe du Monde vienne pour la première fois sur le continent africain en 2010. En 30 ans, à la tête de la Confédération africaine de football, où il est arrivé en 1988, il aura contribué à écrire les plus belles pages du football africain et l'imposer sur la place mondiale comme un football digne de respect. Son départ de la tête de la Confédération a fait plonger le football africain dans des atermoiements qui étaient déjà tombés dans le passé. Issa Hayatou aura donné au sport camerounais ses lettres de noblesse. Charismatique et imposant, il aura caressé des rêves de diriger le football mondial. Un temps président par intérim de la FIFA, le fils de Garoua s'en va après une bataille féroce contre la maladie. Dès l'annonce de son décès, la CAF a salué un grand bâtisseur du football africain. Gaël Moudiondedi, Douala, CRTV.
Figure emblématique du football en Afrique et dans le monde, le Camerounais Issa Hayatou a imprimé sa marque dans ce milieu, rajoutant du brillant à l'aura de la Coupe d'Afrique des Nations. L'on énoncerait les actions de développement et l'évolution de l'organisation des compétitions au fil du temps. Évocation des plus importantes réformes dans ce commentaire de Serge Foisgué.
Il a écrit l'histoire du football mondial, méthodiquement et surtout efficacement. Il a inscrit son nom dans le cercle fermé des dirigeants révolutionnaires du football continental pendant 30 ans. 30 années de réalisation et de réformes à la tête de la Confédération africaine de football, avec en prime l'augmentation du nombre de sélections africaines en phase finale de Coupe du Monde. On est passé de 2 à 5. Satisfaction au bout de l'effort. Le Cameroun, le Sénégal et le Ghana font bonne figure en 1990, 2002 et 2010. Sur la scène africaine, le natif de Garoua donne plus de visibilité et de consistance à la compétition la plus populaire. Sous son règne, la CAN passe de 8 à 12, puis à 16 pays participants. Sa capacité managériale a permis d'attirer les plus grandes marques pour le sponsoring de la compétition. Préoccupation de poids aussi, la performance des joueurs évoluant dans les championnats locaux. À travers la création du CHAN, l'opportunité est donnée aux joueurs de trouver un meilleur champ d'expression avant d'être sollicités à l'étranger ou dans les autres compétitions créées sous le règne de Issa Hayatou. Les CAN de moins de 23, 20 et 17 ans sont la preuve. Autant de réformes remarquables qui font du natif de Garoua l'Ayatollah, le Baobab et la légende du football continental. Il s'en va un jour de médaille olympique pour l'Afrique dans un match 100% africain, veille de son anniversaire. Une belle façon pour le mouvement sportif africain de lui dire au revoir.
Il aura passé 3 décennies à la tête de la CAF. Issa Hayatou a aussi été un dirigeant de la FIFA, notamment président par intérim de 2015 à 2016 à la suite de la suspension de Sepp Blatter. Notre compatriote s'est éteint dans la capitale française où se déroulent les Jeux Olympiques depuis le 26 juillet. Ce départ s'apparente à un signe des temps pour un hommage mondial plus que mérité. Bertin Ayangma.
La symbolique est forte. Le grand Lamido des sportifs rejoint les dieux du sport sur l'Olympe au moment où le monde en miniature sous forme de village olympique célèbre à Paris l'universalité, l'humanité et la justice sociale. C'était tout cela, le prince. D'abord Issa, les chrétiens diront Jésus, l'être exceptionnel avec son dernier miracle en date, l'attribution de la phase finale de la CAN au Cameroun. Le patriote s'était déjà illustré dans plusieurs actions fortes pour son pays natal, notamment la sortie de terre du centre de l'excellence de la CAF en Bankomo. Ensuite, Hayatou, synonyme de vitalité, longévité et capacité à relever les défis. L'Afrique du foot lui doit tout, ou presque. Dans les registres de la décolonisation, redynamisation des compétitions continentales ou encore du marketing gagnant. Avocat, défenseur du footballeur, l'homme a su marquer les esprits. Et derrière son sourire débonnaire, l'ancien président de la CAF n'a jamais transigé avec la voix de l'Afrique. Une voix forte et indépendante. Ce qui lui a valu en 1999 le titre de personnalité africaine du siècle. IH, l'identifiant unique taille patron du Camerounais panafricain qui fait l'unanimité sur les services rendus à sa passion. Le ballon rond, une vie en croitant, le sportif, le dirigeant et maintenant la légende éternelle.
Rigueur et fidélité incarnaient l'homme. C'est le point de vue de l'un de ses collaborateurs. Abel Mbengue aura passé 36 années aux côtés de Issa Hayatou. Et voici un morceau de témoignage recueilli par Didier Marius et Tundi.
Je suis tombé des nues, quand bien même la fatalité était évidente. Parce que ces derniers jours, ces derniers mois, je savais que plus qu'un ami, ça n'allait plus. C'est d'abord un ami, au départ. Ensuite, un collaborateur qui me suis aligné dans la rigueur. Parce que Hayatou était un homme de rigueur. Je n'ai pas dit rigoureux, un homme de rigueur. Lorsqu'il fallait faire le travail, il fallait le faire. Et lorsqu'on devait être ami, il fallait être ami. L'homme était entier. Issa était un homme entier. Quand il devait te dire des vérités, il s'exprimait sans retenue. Mais en même temps, il savait faire la part des choses entre la réserve et l'éclat du sentiment. Le président de la Confédération africaine de football, ou bien le postulant à la fonction de président de la Confédération africaine de football, n'a jamais été un ambitieux hors pair. Il a gravi tous les échelons. Sous-directeur des sports d'abord, secrétaire général Fédération Camerounaise de football, cumulativement à sa fonction de sous-directeur des sports civils et des relations internationales. Et en même temps, après sous-directeur, directeur des sports, président permanent. C'est le premier et le seul président permanent de la Fédération Camerounaise de football. Une initiative de notre ami Mbombo Dioya. C'était l'époque où le sourire était permanent et contagieux, en tout cas le partage de sourire autour de l'ennemi mondial. C'était l'époque où la discipline d'État était maître.
Le directeur général de l'Académie nationale de football annonce le décès de M. Issa Hayatou, président du conseil d'administration de l'ANAFOOT, survenu le jeudi 8 août 2024 des suites de maladie à Paris. M. Issa Hayatou a été un leader visionnaire et dévoué dont l'engagement envers l'Académie a profondément marqué notre organisation. Il a joué un rôle déterminant dans l'essor de notre institution. Sous sa direction, l'ANAFOOT a connu une croissance et un développement significatif. L'ANAFOOT exprime sa profonde affliction face à cette disparition et adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses amis ainsi qu'à ses proches. Son absence laisse un vide immense au sein de l'Académie. C'est un communiqué de Eno Ngachou. Dans l'agenda culturel propose cette fin de semaine un live musical de Hugo Niamé dimanche au complexe Center Park de Yaoundé à Hala Échangeur. Hormis le Makossa, l'on aura dans la cité capitale le chant gospel. Un concert religieux animé par quatre chorales a démarré ce vendredi à 19h à la paroisse Albert Théodore Niem derrière le lycée Leclerc. C'est la consécration des 40 ans du ministère pastoral du révérend pasteur Mokwembe François. Une veillée musicale clôture ce vendredi la 68e édition du comité de développement de la ville. Le concert a lieu à l'entrée du palais royal de Bamenji. Et puis les populations de Maroua sont invitées à la projection du film documentaire Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. Rendez-vous demain samedi 10 août 2024 à 17h à la place des fêtes de Maroua. Projet de développement en Afrique, la touche du Japon. Une délégation de parlementaires japonais décline l'offre au cours d'une visite de travail en terre camerounaise. Aisawa Ishiro conduit la délégation qui était ce vendredi au Sénat, à l'Assemblée nationale et dans les services du Premier ministre. Cameroun, Guinée équatoriale, nouvel élan dans la coopération bilatérale. Les travaux de la 9e session de la grande commission mixte entre les deux États s'est refermée ce 9 août à La Paz. Et en sport, Jeux paralympiques 2024, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelle-Combi, a remis ce vendredi le drapeau à la team engagée dans la compétition parisienne prévue du 28 août au 8 septembre. Le porte-étendard du Cameroun est la para-athlète Dassy Marie-Antoinette. 20h34, fin du journal, sous la coordination de Serge Foisgué. Au générique, Célestin Gouès, Fatimé Bintouakoum, Christelle Boudjieka. Mesdames, messieurs, merci de nous écouter. Bon week-end.
Brise 1.